autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Alice Ménard à la réalisation pour une émission intersidérale aujourd'hui, en compagnie de l'astrophysicienne albanaise Mimosa Hafizi, qui entre science et fiction nous entraînera au-delà de notre système solaire, vers Proxima B, l'exoplanète la plus proche de la Terre. Ce point rose qui donne son titre à son roman, qui a reçu le prix de la littérature pour la jeunesse en Albanie. Et c'est la tête dans les étoiles que nous reviendrons sur Terre pour notre éphéméride mensuelle sous le ciel d'Afrique en compagnie du planétologue Sylvain Boulet. Un programme astral et une quête astronomique à partager ensemble sur Terre, notre petite planète, ce point bleu, bleu pâle dans l'univers, comme le décrivait le pionnier et fondateur de l'exobiologie, la recherche de vie extraterrestre, Carl Sagan, qui ouvre notre réflexion aujourd'hui autour de la question « À quoi ressemble Proxima B, l'exoplanète la plus proche de notre système solaire ?» Bienvenue.
Now of all those worlds, we have no indication of life.
Jusqu'à présent, dans tous ces mondes, nous n'avons aucune indication de vie. Pour moi, cela souligne la rareté et la préciosité de la Terre et de la vie qu'elle abrite. Comme vous pouvez le voir, on dirait un point, mais en fait, c'est moins d'un pixel. Vous voyez que ce point est légèrement bleu, et c'est là que nous vivons, sur un point bleu. Sur ce point bleu, c'est là que tous ceux que vous connaissez et tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui ont existé, ont vécu leur vie. C'est une minuscule scène dans une immense arène cosmique. Pour moi, cette perspective souligne notre responsabilité de préserver et de chérir ce petit point bleu, la seule maison que nous ayons.
Ce petit point bleu sur lequel nous sommes, the blue dot, comme nous le rappelait le regretté Carl Sagan, c'est notre Terre bien sûr, la seule planète que nous ayons, il n'y a pas de planète B, mais il y a tout de même Proxima B pour nous faire rêver. Alors à quoi ressemble cette exoplanète la plus proche de notre système solaire, située tout de même à 40 000 milliards de kilomètres, pourrait-il y avoir de la vie ? Sur ce petit point rose, pour reprendre le titre de votre roman. Mimosa Hafizi, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir en direct dans notre studio. Vous êtes astrophysicienne, vous enseignez la mécanique quantique et l'astrophysique à l'université de Tirana, en Albanie. Autant dire, presque sur une autre planète, et pourtant ce n'est pas si loin que ça, hein, à l'est de l'Europe. Vous ne devez tout de même pas être très nombreux, et encore moins nombreuses, Mimosa, à enseigner, à pratiquer des sciences astrophysiques et astronomiques en Albanie, dans votre pays.
C'est un petit pays, donc c'est un petit groupe d'astrophysique que je l'ai monté moi-même quand même.
C'est vous-même qui l'avez monté,
oui,
hein,
oui,
département de sciences astrophysiques à Tirana.
Oui, je suis retournée à Tirana, je suis retournée de Paris en 1995. Après avoir fini mes études doctorales ici, et puisque j'avais fait des études de physique théorique, en effet, doctorat de physique théorique, mais en milieu d'astrophysicien à l'observatoire de Meudon. Quand je suis retournée à Tirana, j'ai décidé de créer le groupe d'astrophysique parce que même au niveau des études universitaires, l'enseignement était au niveau rudimentaire, disons. Et maintenant, après 26 ans, je suis contente parce qu'on a un petit groupe de 3 astrophysiciens professionnels qui travaillent sur 2 sujets différents, sur le sursaut gamma, qui sont les événements les plus extraordinaires et plus puissants de l'univers, et des exoplanètes, exoplanètes libres. En effet, c'est la spécialisation de notre groupe. Mais aussi, on a plein d'étudiants qui ont fait leur diplôme sur le sujet d'astronomie. Et on a monté aussi un centre d'astrophysique pour
faire passer cette science et voir les étoiles à tout le monde. Et vous l'avez monté avec qui ? Cet observatoire astronomique à Tirana en Albanie, c'est avec vous, Sylvain Boulet. Bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, Caroline, nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay, président de la Société astronomique de France. Et c'est grâce à vous qu'on a Ciel d'Afrique, notre éphéméride mensuelle, tous les mois sur RFI. C'est ensemble, en fait, vous étiez à l'époque plus jeune étudiant, vous êtes toujours jeune, mais plus étudiant, Sylvain Boulet, que vous avez monté un peu comme on essaye de le faire en réseau actuellement sur le continent africain, que vous avez aidé Mimosa à monter un observatoire à Tirana.
Alors on se connaît depuis effectivement plus de 20 ans et puis surtout on a un ami commun qui s'appelle Christian Bourdeil, qui est le président de l'Uranoscope de France, qui est une association qui a pour but de développer l'astronomie dans les pays en voie de développement. Et effectivement on s'est rencontrés par son intermédiaire et puis surtout on a surtout échangé entre nous. On a pu aussi offrir un télescope à l'université de Tirana qui fonctionne encore aujourd'hui et qui permet d'organiser des observations. Donc moi j'étais tout jeune à l'époque et j'étais surtout observateur, et donc effectivement tout le mérite revient surtout à Christian et puis à Mimosa qui ont commencé cette belle amitié, et je suis très content d'être là 20 ans plus tard avec elle.
Alors précisons, Mimosa Infizi, que vous êtes une vraie passeuse de science et donc l'auteur de ce roman étonnant, un ovni je trouve entre science et science-fiction, qui s'appelle Point Rose, donc que vous avez écrit évidemment en albanais, que vous avez aidé à traduire avec votre réseau aussi d'astrophysiciens, d'astronomes qui parlent français. Vous avez aidé à traduire en français dans la maison d'édition Anovi. Alors, comment dire, on va revenir sur ce roman, Point Rose et cette planète, Proxima B, en liaison avec le point bleu de Carl Sagan, pour parler de notre Terre. C'est un roman à travers lequel vous voulez vraiment faire passer la réalité, les avancées des observations de l'aventure astronomique, des portraits de chercheurs, d'astrophysiciens, d'astrophysiciennes que vous avez croisés au cours de votre carrière. Mais aussi, il y a aussi du roman, il y a aussi de la fiction,
oui,
mélange des genres.
Oui, je suis une femme qui a consacré toute sa vie aux sciences naturelles et on peut comprendre que je suis toujours fascinée par le fonctionnement de la nature, les lois de la nature, mais la chose qui me fait vraiment, qui m'émerveille vraiment, c'est notre capacité de découvrir, de comprendre les lois de la nature. Donc, les chercheurs, donc les gens qui consacrent leur vie pour comprendre l'univers avec leurs méthodes de plus en plus sophistiquées. Et devant chaque découverte, même pas seulement en astrophysique, astronomie et en physique, mais partout, je me sens émerveillée de notre capacité de progresser, d'avancer. Ça te donne une émotion extraordinaire et toujours j'ai voulu partager cette émotion avec les autres. Mais toujours en donnant la voix aux chercheurs. Et j'ai essayé, d'inventer cette façon de communiquer avec le lecteur par en créant, disons, un roman où les personnages sont les vrais chercheurs. Les noms sont inventés, mais j'ai toujours dans ma tête les personnages de ma vie, les gens qui, mes collègues ou mes professeurs, des gens que je connais très bien. Je sais très bien comment ils réfléchissent, comment ils sentent les découvertes, comment ils progressent. Et j'ai essayé de mettre tout ça dans un roman où les événements sont réels, les centres d'exploration sont réels, mais seulement les noms sont imaginés.
C'est votre part de créativité, oui, de romancière, oui, et avec des encadrés qui sont absolument justes. Quel est-vous ? Il y a beaucoup d'émotions qui passent dans ce roman, d'humanité aussi. Vous, Mimosa Infizi, quelle est peut-être l'émotion la plus forte ou la plus, pourriez partager, que vous avez eue vous-même dans vos travaux, dans vos recherches, dans vos observations ?
Moi, je travaille sur une un groupe d'exoplanètes qui s'appelle les planètes libres. Ce sont des
planètes libres. Déjà, rien que le nom, c'est génial.
C'est génial parce que c'est des corps astronomiques qui sont expulsés de leur famille, planétaire, comme nous avons une famille planétaire. Et imaginez un corps qui soit expulsé, erre libre dans le milieu.
Il erre libre, sans étoiles, sans étoiles, c'est ça, sans soleil,
et
sans
système. C'est très, très émouvant d'imaginer ces corps. Et ces corps libres se sont déjà découverts par une méthode qui s'appelle la méthode des micro-lentilles gravitationnelles. Donc, notre capacité de découvrir ces corps qui se trouvent même des centaines et des milliers d'années-lumière de loin de nous, c'est vraiment touchant.
Ah, c'est touchant, c'est émouvant. Allez, on s'arrête non pas sur le point rose, non pas sur les exoplanètes libres, rien que le nom, ça me fait rêver. On s'arrête un peu sur votre parcours d'astrophysicienne, Mimosa Afizi, celui d'une étoile, moi j'ai envie de dire rare et brillante, d'une comète un peu sous le ciel d'Albanie. Et c'est l'autrice et vidéaste de l'espace, Florence Porcel, qui nous le rappelle.
Moi, je trouve intéressant, du coup, une astrophysicienne albanaise, c'est vrai qu'on n'a pas vu, on n'a pas l'habitude de voir ces deux mots-là ensemble. Moi, j'admire le fait qu'elle soit devenue astrophysicienne sans forcément de rôle modèle. Après, je ne sais pas, peut-être qu'en Albanie, c'est autre chose qu'en France, mais en France, quand j'étais petite, je ne connaissais pas d'astrophysicienne. Et c'est peut-être sans doute pour ça que je ne le suis pas devenue moi-même. Donc, comment a-t-elle eu le courage et la volonté et la forte personnalité pour réussir à devenir astrophysicienne dans son pays sans forcément de rôle modèle? Je trouve ça absolument admirable.
Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, qu'on peut vous poser, Mimosa Afizi, et votre réponse va sûrement résonner dans les oreilles de nos auditrices astronomes, astrophysiciennes sur le continent africain, qui elles aussi n'ont pas beaucoup de rôle modèle. Comment avez-vous fait sans, finalement, pour être aussi pionnière?
Mais c'était une décision prise, disons, en deux étapes. La première étape, c'était de décider de devenir physicienne. C'est un moment de la vie de chaque lycéen. Vous savez, il y a un moment qu'on doit choisir notre chemin. Et quand je suis devenue, j'ai eu l'âge de 18 ans, je me suis dit, je vais devenir physicienne. À l'époque, l'Albanie, c'était un pays fermé. C'était la dictature communiste et c'était les nomenclaturas, c'était l'État qui décidait pour les jeunes. Les jeunes n'étaient pas libres de suivre leur chemin. Mais moi, j'avais un faveur parce qu'il y avait une loi que les élèves qui finissent leurs études avec une médaille d'or, ils peuvent choisir. Alors, j'avais le droit de choisir et j'ai choisi de devenir physicienne. J'aimais beaucoup les mathématiques à l'époque. Et entre mathématiques et physique, alors j'ai fait un raisonnement. Je n'ai pas suivi la patience, l'émotion. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais faire les mathématiques, mais en suivant les lois de la nature. C'était comme ça. C'était la logique d'une adolescente,
bien
disons.
Sûr.
Et après, de devenir astrophysicienne, c'était beaucoup plus tard, après avoir fini mes études doctorales en France.
Études doctorales que vous avez poursuivies en France, où vous avez appris le français. Je dis ça juste en passant comme ça.
J'avais commencé à apprendre le français seulement quelques mois avant d'arriver en France. C'était l'année 90. L'Albanie était encore fermée quand le ministère des Affaires étrangères français m'a donné une bourse d'études en France. Et quand j'ai quitté le pays, j'ai quitté un pays fermé. Et quand je suis retournée un an après, c'était les changements, vous savez, de l'Europe de l'Est. Et mais pendant cette année, j'avais fait les études de physique théorique à l'École normale supérieure de Paris. Et après, j'ai suivi le doctorat à l'Observatoire de Meudon.
Et vous avez choisi de rentrer, de retourner en Albanie?
Tout de suite après. Donc, j'ai soutenu ma thèse, c'était 5 juillet 1995, je me souviens bien la date, et je suis retournée à Tirana 2 semaines après, parce que j'avais décidé de continuer mon travail à l'université de Tirana pour contribuer, pour développer la science et surtout l'astrophysique. Je vous ai dit, c'était à un niveau tout à fait rudimentaire.
Vous avez réussi à développer ces sciences spatiales, l'astrophysique, mais en même temps, la situation en Albanie aujourd'hui ne doit pas être simple. Pour mener vos recherches, ça n'est pas simple. Vous n'avez pas choisi la facilité en entrant en Albanie.
En 95, j'imaginais que l'Albanie allait changer très vite parce qu'on rêvait, on était jeunes et on pensait que ça va progresser très vite. L'Albanie a vraiment, vraiment très, très bien progressé, mais grâce à l'énergie des gens, parce que la politique n'arrive pas toujours à suivre la passion des gens. Mais moi, je suis très, très contente que je suis retournée. Et j'ai pu contribuer, de faire tout ce que j'ai pu pour mon pays et pour la jeunesse de mon pays.
Pour la jeunesse de votre pays, parce qu'il y a aussi, j'imagine, une fuite des cerveaux
oui,
en Albanie. J'imagine.
Malheureusement, chaque jour, il y a des hauts et des bas, mais pendant cette période, on vit le haut. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir. Ils sont un peu déprimés, plutôt de la situation politique, parce que l'Albanie, c'est un pays vraiment très beau. Donc, c'est un pays qu'il mérite que les jeunes restent là pour contribuer.
Et est-ce que c'est déprime. Un peu comme sur le continent ? C'est-à-dire que, notamment pour l'astronomie, est-ce qu'il y a un ciel peut-être où il y a moins de pollution lumineuse qu'ailleurs ? Peut-être que c'est un beau lieu pour observer ?
Bah oui, il y a des zones où le ciel est encore clair.
Autour de la question, à quoi ressemblent les exoplanètes ? On y revient, puisque vous étudiez les exoplanètes libres, mais que vous venez de publier donc Point Rose autour de Proxima B, l'exoplanète qui est la plus proche de notre système solaire. Elle est proche, mais enfin elle n'est pas si proche que ça, hein, le Proxima B.
Oui, mais dans notre langage des gens de l'astronomie, c'est très proche parce que nous, on parle des années de lumière, donc des centaines de milliers. On cherche les débuts de l'univers qui est plus de 10 milliards d'années de lumière.
Donc Proxima B, c'est rien.
Donc c'est rien de tout. Mais c'est fascinant parce que cette planète est découverte en 2016. Il y avait des générations d'exoplanètes déjà découvertes depuis 1995, qui était la découverte de la première exoplanète. Je voulais vous dire quelque chose parce que Carl Sagan, il a dit que oui. Nous sommes seuls et malheureusement, il a disparu avant de voir que la révolution que prend cette...
La découverte des exoplanètes.
Des exoplanètes. Mmh. Je pense qu'il aurait été très, très ému de voir... parce que c'est l'œuvre de sa vie aussi. Il a travaillé sur l'astrobiologie. Et il y avait des générations d'exoplanètes découvertes, même des centaines et des milliers d'années.
Beaucoup plus que ce qu'on imaginait.
D'années-lumière jusqu'à 2016. Et un jour, loin de nous, un jour, on arrive de découvrir l'exoplanète dans l'étoile la plus proche. Il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, mais on arrive à découvrir la planète autour de l'étoile la plus proche de nous et qui peut être habitable. C'est ça
C'est ça, elle est peut-être habitable. Et c'est ça qui nous fait tous rêver, qui nous fait parfois fantasmer aussi. Ce petit point rose, au-delà de notre système solaire, mais pas si loin que ça, est peut-être habitable. On va y revenir, mais vous avez choisi, et vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage Point Rose, puisque j'ai envie de vous dire, vous faites appel à tous les feux, au feu de tout bois, pour nous faire passer l'astronomie. Vous faites aussi appel à la musique. Et notamment, on va s'arrêter autour de la formidable détection du système TRAPPIST en 2016-2017. Cette fois-ci, c'est 7 planètes de la taille de la Terre qui pourraient bien être habitables, qui sont elles quand même un peu plus loin, Proxima B, 39 années-lumière, carrément, c'est ça. Vous revenez donc dessus en musique, en traduisant en français dans votre ouvrage Point Rose, cet hymne à l'espace, cette déclaration d'amour à l'étoile et aux planètes de TRAPPIST. C'est le groupe In Isolation que vous citez dans votre ouvrage et qu'on écoute tout de suite sur RFI. We'll be right back. I'm in love with a Trappist One sur RFI, même si je ne verrai jamais ton soleil se lever. Nous sommes en studio, en direct, avec le planétologue Sylvain Boulet et avec l'astrophysicienne Mimosa Afizi, qui vient de publier Point Rose autour de Proxima B. Alors vous êtes amoureuse de quoi ? De Trappist One ou de Proxima B, Mimosa Afizi ?
Dans mon œuvre, j'étais plus amoureuse de Trappist One pour une raison, parce qu'il y a 7 planètes et il y en a 4 d'entre eux qui peuvent être habitables. Donc j'ai imaginé que ce sont des mondes, si elles sont habitables, sont des mondes très très proches de l'une avec l'autre, parce que ce sont des planètes qui se trouvent très proches de leur étoile.
De leur étoile, ce système centrale. Trappiste.
Donc, s'il y a des civilisations qui sont développées séparément, elles ont eu la possibilité de se rencontrer. Et c'est pour ça que j'ai imaginé un rencontre. C'est la seule partie de mon livre qui est
science-fiction.
La fiction. Parce que l'autre partie est vraiment les faits réels. Et j'imaginais que les deux mondes se rencontrent, parce que leur distance est seulement quelques millions de kilomètres par rapport à notre Mars, qui est des dizaines et des dizaines de millions de kilomètres. Donc c'est beaucoup plus facile. Et j'imaginais deux civilisations se rencontrent, et puis il y a un signal intergalactique qui est donné et qu'il arrive sur Terre et que c'est attrapé par SETI.
L'Institut SETI, exactement, qui a été fondé par Carl Sagan, qu'on a écouté au tout début de l'émission, et qui donc recherche la vie extraterrestre. Donc autour de la question, à quoi ressemblent les exoplanètes, que ça soit Trappiste, le système Trappiste, bien plus loin notre système solaire, ou Proxima B, au fond, c'est une quête, c'est la quête de traces de vie ailleurs que vous menez, vous aussi, en tant que qu'astrophysicienne, et que vous retracez dans ce roman qui a obtenu, je le rappelle, le prix national de la littérature jeunesse en Albanie. C'est ça que vous recherchez, au fond, sur des planètes peu habitables, parce que finalement, Proxima B, ce point rose, pas très loin de chez nous, il n'est pas très habitable.
Il y a des espoirs.
Il y a quand même des espoirs.
Oui, il y a des espoirs. Et en plus, même Proxima B et les planètes des Trappistes étant assez proches de leur propre étoile, il est possible que leur mouvement soit synchrone, comme le mouvement de la Lune autour de la Terre. Et dans ce cas-là, ce serait très, très intéressant de voir comment la vie et l'intelligence peut se développer dans un pays où le soleil reste immobile dans le ciel. Il n'y a pas de matin, il n'y a pas de soir.
Ah, c'est ça.
Oui, mais il n'y a pas de temps finalement, parce que notre temps qui coule dans notre planète, c'est un temps astronomique qui est lié avec le jour,
bien sûr,
qui est lié avec les saisons. Mais imaginez un endroit où il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de matinée, il n'y a pas de soir.
Mais il y a mais quoi tout, alors
Il y a le jour éternel. La journée éternelle, mais c'est très intéressant, et c'est ça que j'ai voulu, c'est pour ça que j'ai fait un peu de fiction sur les Trappistes, parce que je me suis dit, le temps existe, même là, parce que le temps existe quand même, mais il n'arrive
pas à mesurer.
Il n'arrive pas à mesurer, et dans le cas de Trappistes, c'était facile, parce qu'il y a 7 planètes, et j'ai calculé.
Oui, vous avez imaginé à partir de la réalité.
J'ai compté le temps que les planètes devant la quatrième planète que j'ai pris en considération, le temps de passage de ces trois planètes devant leur soleil, et ça donne un petit ombre, un petit signal de changement dans un pays où le jour est éternel. Mais c'est ça, ça correspond à une réalité tout à fait physique et tout à fait bien calculable par nos méthodes.
C'est ça, au fond, votre recherche astrophysique, elle frôle la poésie, la philosophie, évidemment à l'aide de mathématiques, mais on est quand même là dans dans de l'imaginaire, mais qui se base sur de la réalité. C'est un peu ça aussi que vous voulez faire passer.
Oui, c'est la science exacte. Je ne dépasse jamais les limites de connaissances actuelles. Donc, c'est la science, c'est la vraie science. Donc,
c'est la vraie science, mais qu'on peut faire passer autrement.
Oui.
Avec de la poésie. On a pas mal de questions d'auditeurs sur nos réseaux sociaux, notamment du côté du Cameroun. Il y a Loïc Kael qui demande quel impact ces découvertes donc sur ces exoplanètes, que ce soit Proxima B, que ce soit tout le système TRAPPIST, peuvent avoir sur notre connaissance du cosmos, mais de notre système solaire aussi. Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on cherche
absolument,
à apprendre ?
Absolument. Parce que nous, on a construit un peu l'histoire de notre système solaire, mais avec les données actuelles et avec mais on n'a pas beaucoup de données sur le passé et l'histoire de notre système. Mais si on examine les autres systèmes planétaires qui sont ailleurs, donc dans de différentes distances, alors pour nous c'est beaucoup plus facile de reconstruire notre propre histoire, de connaître notre système solaire et de connaître quelle est son histoire et quel sera son avenir aussi. Donc ça a un impact direct sur les connaissances de notre système, de notre famille où on vit. Mais à part ça, c'est la quête pour la vie extraterrestre.
C'est ça, hein, c'est la quête de vie extraterrestre, oui. D'autres formes de vie qui nous animent tous et qui vous animent, vous en particulier, comme il anime les formidables chercheurs et chercheuses que vous avez croisés au cours de votre parcours Mimosa Afizi et dont vous nous dressez les portraits, vous êtes un peu dans leur tête à chacun. Alors certains vous ont particulièrement marqué, comme le génial et regretté André Braik à l'Observatoire de Meudon, mais aussi le pionnier de l'astrophysique théorique, Evry Schatzman, spécialisé précisément dans le domaine de la structure des étoiles. Il enseignait lui aussi à l'Observatoire de Meudon, et c'est lui, son humanisme, qui vous a particulièrement marqué, Mimosa, et pas seulement vous d'ailleurs. Alors notre réalisatrice Alice Ménard a réussi à dénicher une pépite qui devrait vous plaire, c'est un petit cadeau pour vous. C'est dans Le bon plaisir du comédien Jean Rochefort sur France Culture qui en 1998 a tenu à inviter donc dans cette émission l'astrophysicien Evry Schatzman pour l'interroger sur le cosmos, sa passion, la passion de Jean Rochefort, ça je ne le savais pas, et pour faire avec lui, comment dire, alors un peu de science et un peu beaucoup de science-fiction. Je rappelle que nous sommes en 1998, donc il y a presque 25 ans, échange au sommet radiophonique entre Jean Rochefort fasciné et Evry Schatzman qui se prête au jeu.
Vous allez avoir dans les 20, 30 ou 40 ans des instruments d'observation prodigieux. Et alors, pour parler un petit peu de cette fiction, puisque moi je suis un homme de fiction, j'imaginais en venant à votre rencontre un film pas cher. Vous êtes seul ici, vous travaillez, il est 2h du matin, et avec ces instruments prodigieux que nous aurons peut-être dans 10 ans, vous observez une vie sur une planète. Et vous êtes seul à le savoir, et vous avez 48 heures pour prendre la décision. Peut-être vous êtes-vous aperçu que la vie qui règne sur cette planète n'est pas très sympathique, et pas si lointaine. Quel cas de conscience, et un bon film pas cher.
Ah oui, non, mais cette réflexion, si vous voulez, a déjà été approchée dans le film à toutes sortes d'occasions. C'était de plus ou moins mauvais ou de plus ou moins bon film, bien évidemment. Ce n'est pas une chose facile. Sur la pratique, la façon dont les choses ont des chances de se produire, ce sera d'abord avec une organisation de l'observation qui mettra en jeu, non pas une personne, mais un grand nombre de personnes. À l'instant où l'observation nouvelle révélatrice se fera, ce ne sera pas une personne cachée dans la coupole d'observatoire qui la découvrira, mais ce sera probablement plusieurs dizaines de personnes simultanément. Donc si vous voulez, par rapport à ce qu'était l'expérience de laboratoire il y a 50 ans, ou je dirais il y a un siècle, actuellement, ce n'est pratiquement jamais l'activité d'une personne unique isolée. C'est vraiment une collectivité, surtout dans les grandes entreprises d'observation qui sont faites. Et donc, cette espèce de responsabilité que pourrait avoir l'astronome que vous imaginez, qui est-ce que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas ? Je pense que ça ne se produira pas.
Quel dommage ! Ou alors, peut-être.
Il y a des observations qui seront faites certainement dans l'espace plutôt que depuis la Terre, parce qu'il y a des choses qu'on pourra beaucoup mieux observer avec de grands instruments ou des instruments très spécialisés mis dans l'espace que par des instruments sur la Terre. Donc l'intérêt professionnel, je dirais, d'une partie du milieu astronomique est d'arriver à trouver la vie ailleurs. Alors pour le moment, il y a toute une série de projets, et en particulier de projets de modes d'observation, d'instruments à créer, mais ça mettra très longtemps. Il y a vraiment là un intérêt, si vous voulez, du point de vue des idées qu'on a sur la vie dans l'univers, c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire et de fascinant. C'est-à-dire que, vous savez, l'idée de pouvoir faire la conversation avec une génération intelligente située ailleurs, c'est très, très attirant. Le problème est de savoir si cette génération intelligente se trouve à seulement quelques années-lumière, ou seulement à 1 million d'années-lumière de nous, auquel cas la communication ne sera pas la même.
Rire cosmique pour cet échange inattendu entre nos chers disparus, le comédien Jean Rochefort et l'astrophysicien Evry Schatzman, qui est votre professeur, dont vous avez souhaité réentendre la voix, Mimosa Afizi.
Oui, c'était vraiment un plaisir de l'entendre. J'ai eu l'occasion de le croiser quand j'étais étudiante à l'Observatoire de Meudon. Et il était, en effet, il avait été le professeur de mes professeurs. Et je connais l'admiration que tout le monde de l'Observatoire avait pour lui. Il a vraiment dit des choses très importantes, que les découvertes aujourd'hui se réalisent par des grands groupes, puisqu'on est en train de discuter sur Proxima B, l'article signé qui annonçait sa découverte. Il a été signé par une vingtaine de personnes qui ont... poursuit, comment dire, jour et nuit, cette étoile pour avoir de signes de cette exoplanète
de Proxima B. Donc, Evry Schatzman était visionnaire aussi dans ce qu'il dit, hein, parce qu'au fond, il pressent aussi ce qui tout va se passer, fait. La manière avec des télescopes sur Terre, dans l'espace.
Oui, tout à
où
fait.
On va pouvoir découvrir les exoplanètes, Proxima B notamment, ou d'autres. Et finalement, c'est vraiment cette quête de vie ailleurs. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est possible? Que c'est même certain qu'on en trouvera? Mais de votre vivant ou pas? De la vie ailleurs, Mimosa Afizi?
Moi, à l'époque où on vit, je pense que c'est certain qu'on va la trouver. Parce que aujourd'hui, on a une liste de 4000, à peu près 4600 exoplanètes déjà découvertes et confirmées. Et dans cette liste, il y a une soixantaine de planètes qui se trouvent dans la zone habitable, comme on dit. Et la nouvelle génération de télescopes sera capable de voir les traces de leur atmosphère pour vérifier, pour aller plus loin dans notre idée qu'on parle vraiment des planètes habitables ou il faut les exclure et il faut les chercher pour d'autres planètes. Mais il y a des méthodes aussi plus directes. Dans le cas de Proxima B,
qui est la plus proche du système solaire.
Oui, il y a des projets maintenant, des idées qui se développent en forme de projets pour pouvoir peut-être envoyer des mini-sondes propulsées par les rayonnements laser très puissants.
Pour les envoyer sur les planètes.
Imaginez que c'est très difficile d'avoir une cible précise.
Aussi précis, aussi
long.
Quatre années-lumière pour toucher ce petit point rose.
Oui, mais peut-être que ce sera réalisé dans ce siècle, peut-être plus tôt. On ne sait pas parce que les choses évoluent si vite, mais ce sera magnifique d'avoir des images directes de la planète.
Et des échantillons, qui sait, de Proxima B.
C'est magnifique.
Hein, ça nous fait tous rêver, ça.
Oui, et en plus, la nouvelle génération des télescopes, comme le professeur disait, ça évolue exponentiellement. Donc,
que faut-il attendre du James Webb télescope, notamment,
dans un mois, peut-être.
C'est ça, qui va être lancé.
Oui.
Autour de la question, allons encore plus loin, n'hésitons pas, entre science et science-fiction, autour de la question à quoi ressemble Proxima B, même si c'est l'exoplanète la plus proche de notre système solaire, est-ce que pour y arriver, pour y poser le pied, alors là, franchement, l'affaire est loin d'être gagnée. C'est tout de même la question que vous pose une autre astrophysicienne de renom, que vous avez d'ailleurs croisée à l'Observatoire de Meudon, chère Mimosa Afizi, c'est Athéna Kousténis, spécialiste entre autres de Mars et de Titan, qui collabore aujourd'hui aussi bien avec l'ESA qu'avec la NASA. Écoutons Athéna Kousténis.
Je serais ravie de savoir comment est-ce que Mimosa imagine ce voyage vers Proxima B, parce que c'est un voyage très lointain, extrêmement intéressant. Comment est-ce qu'elle imagine ce voyage pour les voyageurs, les passagers de la mission spatiale?
Vous avez une idée ou vous auriez une idée? Vous, ce serait quoi? Comment vous l'imagineriez, vous, Athéna Kousténis?
Moi, j'ai toujours dit dans les émissions où on me pose cette question que j'imagine bien faisant un voyage à travers le système solaire et même sortir du système solaire à condition de ne jamais revenir. Parce que le problème d'une mission spatiale, c'est comment on fait revenir les personnes, comment on fait revenir les passagers. Et moi, ça ne me dérange pas de ne pas revenir, à condition de faire un super voyage.
Et vous, Mimosa Afizi, comment vous imaginez ça? C'est vraiment un voyage sans retour parce que c'est trop loin?
Oui, dans des conditions actuelles, tout à fait, Athéna a dit les choses exactes. Je la salue hein, parce que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vue. Et je suis très heureuse pour ses succès, sa vie pleine de réussites. Et non, mais je connais des obstacles de ce siècle et c'est pour ça que j'essaie d'y aller avec l'imagination.
C'est ça.
Mais l'imagination qui est basée sur
la réalité,
sur les faits, sur la physique, sur les lois de la physique. Et pour l'instant, on a assez de données pour pouvoir imaginer qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il faut les prouver. Hein. Toujours les
c'est
physiciens ont des hypothèses, mais il faut les prouver. Mais souvent, et la plupart des cas, les hypothèses des physiciens sont bien prouvées. Donc,
l'imagination, c'est un bon vaisseau, un bon modèle
voilà.
pour avancer d'ailleurs,
oui.
pour essayer de comprendre à partir de bases scientifiques, bien sûr. Hein.
Oui.
L'imagination, l'observation spatiale, je me tourne un peu vers vous, Sylvain Boulet, c'est vrai que c'est un bon moteur, l'imagination. Alors, je ne sais pas si on peut aller aussi loin que ça, mais vous revenez juste, Sylvain Boulet, du Sénégal, vous avez observé, alors ça c'était avec les équipes sénégalaises de Maram Kéré que l'on salue, une occultation stellaire pour la mission Lucie de la NASA, qui elle aussi est un succès, donc succès non pas imaginaire, mais bien réel là.
Bien réel, c'était une magnifique mission avec une trentaine d'astronomes amateurs et professionnels, une vingtaine de Sénégalais, deux Burkinabés, une Belge, des Américains, des Français, bref, plein de beaux ingrédients pour faire une belle mission et ça a été une pleine réussite. Et un petit peu comme on le fait quand on observe les exoplanètes, en fait, on observe eh bien, la baisse de luminosité d'une étoile pour essayer de détecter une planète qui passe devant son étoile.
C'est ça, on ne peut jamais observer directement l'exoplanète ou en l'occurrence cette planète-là, c'est à travers...
Jamais, aujourd'hui on a déjà imagé, mais quand même, dans beaucoup de cas, on détecte les exoplanètes par ce qu'on appelle la méthode du transit. Et en fait, ce transit, alors que la planète, elle est plus petite que l'étoile quand on l'observe, eh bien nous, depuis le système solaire, on peut observer des astéroïdes qui occultent aussi l'étoile très lointaine. Alors là, elle l'occulte entièrement et grâce à cette éclipse d'étoile par un astéroïde, eh bien, on arrive à déterminer la forme de l'astéroïde. Et c'est ce qui a été réalisé pendant cette mission organisée de main de maître par Maram et par David Baratou. Hein. Tout ce petit monde a sorti 10 télescopes et le soir d'observation, pendant 3 secondes et demie, eh bien, l'astéroïde Horus a occulté l'étoile. Et grâce à cette observation commune, eh bien, on a pu déterminer la forme de l'astéroïde qui va bien sûr être utile pour la mission Lucie qui a été lancée le même jour. Ça
c'est
été quand
ça,
même étonnant.
Hein.
Le 16 octobre, on observait l'occultation et la fusée partait vers cet astéroïde.
C'est ça, entre Dakar et Cap Canaveral, comme quoi c'est ensemble, sous le même ciel, vous nous le répétez bien, vous nous le dites bien chaque mois, Sylvain Boulet, qu'on avance, que ce soit à Tirana, à Dakar, à Cap Canaveral, à Kourou. Bon là, c'est sous le ciel d'Afrique, évidemment, que vous nous entraîner, Sylvain Boulet, que nous allons placer notre lunette astronomique. Il y en aura encore à gagner, hein, chers amis auditeurs, mais ça sera le 15 janvier prochain, évidemment, sur notre site partenaire L'Astronomie Afrique. En tout cas, vous pouvez retrouver la chronique Ciel d'Afrique sur la chaîne YouTube de RFI. C'est l'heure de votre éphéméride mensuelle.
Ciel d'Afrique sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
Cher Sylvain Boulet, donc, sous le signe de Vénus, ce mois-ci, que pourra-t-on voir sous le ciel d'Afrique d'ici au 15 décembre ?
Alors, ce mois-ci, en fait, la reine des planètes, eh bien, ça sera sans conteste la planète Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du berger. Hein. Elle brillera de mille feux le soir après le coucher du soleil, haut sur l'horizon ouest. Et à noter un joli rapprochement entre Vénus et la Lune le 6 décembre, date à laquelle Vénus sera la plus lumineuse. Alors, je le répète aux auditeurs, hein, son extrême luminosité est liée au fait que Vénus est la planète la plus proche de la Terre et qu'elle est aussi totalement recouverte de nuages. Imaginez sur cette planète, hein, si vous vivez à la surface, eh bien il serait impossible de voir le soleil ou les étoiles. Si vous avez un télescope, hein, ne manquez pas d'observer les phases de Vénus, car celles-ci vont changer, et donc vous allez voir eh bien, la planète passer d'un quartier de Vénus à un joli croissant. Vous pouvez aussi profiter eh bien, de Jupiter et Saturne en début de nuit, car les deux planètes ne seront plus visibles très longtemps. Elles se couchent de plus en plus tôt en première partie de nuit et ne sont plus aussi hautes que les derniers mois. Pour les trouver facilement, eh bien, profitez de notre Lune, puisque notre satellite naturel a rendez-vous le soir avec Jupiter et Saturne les 7, 8 et 9 décembre.
Et le rendez-vous à ne pas rater, je le rappelle, c'est avec Vénus ce mois-ci. Du côté des constellations, Sylvain Boulet, lesquelles seront les plus visibles ?
Alors au mois de novembre et décembre, hein, les constellations de Persée, du Taureau et du Cocher seront hautes sur l'horizon. On dira au revoir progressivement à Pégase, Andromède, pour dire bonjour à Orion et le Grand Chien. Alors proche de l'équateur et dans l'hémisphère sud, vous pourrez découvrir aussi les constellations de l'Éridan, de la Colombe, du Peintre ou encore du Burin. Alors il est étonnant de voir la différence entre les noms des constellations de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. En fait, elles ont des petites histoires différentes. Celles de l'hémisphère nord racontent l'histoire de la mythologie grecque et ont été nommées notamment par Ptolémée au 2e siècle de notre ère. Et puis celles de l'hémisphère sud sont beaucoup plus modernes et ont été nommées à partir du 17e siècle lorsque les Européens sont partis explorer les mers de l'hémisphère sud. Alors parmi les astronomes qui ont contribué à nommer les constellations, on peut nommer Johann Bayer, Johannes Evelius ou encore Nicolas Louis de La Caille. Alors là, on parle évidemment des constellations officielles, puisqu'aujourd'hui on en connaît 88, on en a officialisé 88, qui ont été validées par l'Union Astronomique Internationale. Mais je suis sûr que dans vos pays, eh bien, vous connaissez des noms de constellations qui ne sont pas officiels et qui permettent de raconter de belles histoires dans votre pays. Alors n'hésitez pas à nous raconter ces histoires et à les partager.
Ah oui, on compte sur vous, chers amis auditeurs, internautes et astronomes amateurs. Quels sont les autres phénomènes astronomiques à ne pas rater jusqu'à la mi-décembre, Sylvain ?
Alors oui, Caroline, pendant les 30 prochains jours, il ne faut pas rater eh bien, quelques belles étoiles filantes, parce que voilà, il va y en avoir quand même pendant ces 30 prochains jours. Tout d'abord, dans la nuit du 17 au 18 novembre, il devrait y avoir quelques belles étoiles filantes appartenant à l'essaim des Léonides, qui semblent venir de la constellation du Lion. Et donc à ce moment-là, la Terre rentre dans un essaim de poussière laissé par la comète Temple-Tuttle. Et c'est quand même assez impressionnant, hein, les poussières vont rentrer en collision avec la Terre à une vitesse phénoménale de 72 km par seconde.
Oui,
et oui, et puis en parlant d'étoiles filantes, il ne faudra surtout pas rater l'essaim des Géminibles, qui semble venir de la constellation des Gémeaux, dans la nuit du 13 au 14 décembre. Et c'est un peu l'équivalent de nos Perséides en fait, qu'on voit au mois d'août. Donc vous devriez voir quelques dizaines d'étoiles filantes par heure, et en milieu de nuit, il n'y aura pas de lune dans le ciel, donc vous allez profiter du ciel le plus noir possible pour voir les étoiles filantes les plus fines.
Je retiens donc la nuit du 13 au 14 décembre pour voir plein d'étoiles filantes. Merci Sylvain pour ce nouvel éphéméride. On se retrouve bien sûr le 15 décembre prochain pour un nouvel éphéméride du ciel d'Afrique. Et puis on rappelle aussi à nos amis auditeurs internautes qu'une lunette astronomique sera de nouveau mise en jeu.
Tout à fait Caroline, hein, une nouvelle lunette astronomique est de nouveau mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Pour participer, c'est très simple. Il suffit d'envoyer sur notre page Facebook l'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Et le gagnant sera annoncé le 15 janvier.
Merci Sylvain, je vois Mimosa Afizi qui a des étoiles plein les yeux. Ça vous intéresse, hein, cette éphémérie du ciel d'Afrique et puis aussi ces lunettes astronomiques qui sont remportées par des lauréats qui à chaque fois maintenant font des petites associations d'astronomie qui partagent le ciel et les étoiles.
Oui, c'est fantastique, toute cette attention vers le ciel. Et je pense que la voix de Sylvain et les paroles de Sylvain, c'était très attirante pour avoir beaucoup de jeunes qui seront intéressés de suivre même les événements de ce mois, mais en Albanie aussi on essaie de faire la même chose. On a organisé même en distance avec Sylvain plusieurs activités, les nuits des étoiles au mois d'août,
tout à fait,
d'août
on les a
fait jointes, et aussi Back on the Moon,
On the Moon Again, on avait participé nous aussi.
Oui, mais c'était en Albanie aussi. On a eu beaucoup de public qui nous ont suivis.
Mais c'est ça, parce qu'au fond, ça fascine. Mais moi, ce que je trouve aussi étonnant, enfin, moi-même, je suis fascinée quand je lève le ciel et que je regarde les étoiles, c'est magnifique. Mais on se rend compte aussi, avec vous deux, là, en l'occurrence, qu'il y a un réseau d'astronomes, d'astrophysiciens qui ont tous très envie de partager le ciel, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui existe aujourd'hui dans la communauté d'astrophysique, d'astronomie. Et c'est quelque chose qui a un écho chez les jeunes, évidemment, chez tout le monde. Mimosa.
Oui, beaucoup, hein, partout. En France, c'est très bien organisé. Mais en Albanie aussi, on essaie d'organiser. Il y a, je vous ai dit qu'on a déjà une centre d'astrophysique à Tirana. On a un télescope et on organise de temps en temps des observations du ciel. Mais il y a des jeunes aussi isolés comme ça, des différents coins qui essayent de faire des choses eux-mêmes. Mais ce serait très bien si on peut les organiser ensemble, de partager ensemble des connaissances et la
passion.
Pourquoi
pas, faisons réseau entre tous les continents sous le même ciel, comme vous nous le dites chaque mois, Sylvain Boulet. Merci infiniment, Mimosa Afizi, d'avoir profité de votre passage à Paris, enfin d'être venu exprès un peu pour nous à RFI. Je rappelle le titre donc de ce roman étonnant, magnifique, Point Rose, paru en français aux éditions Anovi. Vous repartez quand à Tirana, chère Mimosa?
Demain matin.
Ah oui, c'est rapide.
Et le mercredi, je serai avec mes étudiants et probablement je vais leur raconter quelque chose de notre discussion.
Avec grand plaisir. On les salue tous et s'ils comprennent le français, avec plaisir pour partager avec eux. Merci, oui. Mimosa. Merci, Sylvain.
Merci, Karine.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs. Merci à Alice Ménard, à la réalisation. Demain, ce sera le retour de Hugo Violas avec Caroline Fillette, bien sûr, en coulisses. Caroline Achowski au micro. Autour de la question, au-delà de quelle limite notre humanité sera-t-elle dépassée? Tiens donc, nous parlerons de l'exposition Aux frontières de l'humain qui se tient actuellement au Musée de l'Homme à Paris. Merci de votre curiosité. Dans quelques instants, l'heure des infos sur RFI.